Bonjour à tous et bienvenue à notre émission, que c'est la dernière, le rendez-vous de Rosendo. Et la dernière de l'année aussi, la dernière en ce qui me concerne, parce que je passe les ondes de CFM dans ce créneau horaire à la nouvelle émission qui s'appelle Bilingue sous les arbres et qui va être dirigée par Elena Massip et Ninon Lécou. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Elena Ikibi, comédienne toulousaine qui arrive à Montauban. Je ne sais pas, c'est la première fois que tu arrives, Elena?
Je suis venue de temps en temps à Montauban pour passer des auditions, pour faire les 400 coups, par exemple.
Et nous avons aussi la visite d'Alain Munier, réalisateur, qui justement a fait récemment avec Elena Ikili, a fait Les oiseaux des passages, un film. Bonjour Alain.
Bonjour.
Et aussi, il est passé déjà, tu as été une de nos invités, Alain.
Il n'y a pas très longtemps. Ferme.
Oui. Et je finis le tour des présentations, donc Vanessa Benzergue, Ninon Lécou et Elena Massip. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Rosendo.
Alors, nous commençons donc à te griller avec des questions, Elena Ikili. Et tu es née à Toulouse.
Oui.
Et à 17 ans, tu as commencé tes cours de théâtre, avec les cours Florent à Paris.
Exactement, oui. Juste après le bac, en fait, j'ai décidé de commencer, de me lancer dans cette vie un peu trépidante du théâtre, etc. Donc, je suis montée à Paris parce qu'il me semblait qu'à l'époque, il n'y avait pas de conservatoire à Toulouse et qu'il fallait forcément monter. J'ai fait ça de façon un peu naïve et inconsciente, mais finalement, je ne regrette pas. Mais il me semblait que c'était la seule démarche à faire, en fait, à l'époque.
Ah oui, mais cette naïveté, cette inconscience que tu signales, il est quand même balancé ou équilibré avec cette conviction, parce que tu signales à dire, tu dis, c'est la seule chose à faire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une conviction.
De la conviction.
Oui, mais pour faire du théâtre ton métier.
Oui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours été cette volonté assez forte de me lancer dans ce métier. Et c'est comme si, du coup, toutes les choses découlaient un peu naturellement. Du coup, oui, c'était des évidences.
Mais est-ce qu'à l'enfance ou à l'adolescence, tu avais déjà cette expérience qui pouvait te permettre cette assurance de dire « non, je vais faire ça
». Mais c'est assez surprenant parce que je suis très, très timide À l'école, quand je devais faire des exposés ou des choses comme ça, tout d'un coup, j'avais une sorte d'apaisement. Et du coup, c'était les seuls moments où je me sentais bien, à l'aise. C'est des moments de paix intérieure. Et du coup, il m'a semblé un peu naturel de me lancer dans une voie comme ça, de sorte de représentation et de me sortir de moi-même, de cette enveloppe personnel qui m'était un peu lourde, en fait. Et du coup, mais cela dit, j'en avais fait déjà au lycée. Et j'avais fait l'option théâtre à Toulouse, au lycée Saint-Joseph. Et du coup, j'avais un peu expérimenté la chose. Mais ça surprenait toujours les gens que je puisse vouloir me lancer là-dedans. Ils disaient, mais elle va se faire dévorer, en fait. Bon, ben, a priori, pas encore.
Donc, de côté de la famille, il n'y a pas eu une opposition ou un soutien? Comment ça s'est passé? Parce que quand on choisit un métier artistique comme celui-ci, quand même, ça implique beaucoup de risques.
Ça implique des risques, mais comme en fait, je me donne les moyens de parvenir à ce que je veux faire. Du coup, ils ont vu ma motivation. C'est vrai qu'aucun n'est dans le milieu artistique. Ils sont tous scientifiques, profs de maths, profs de physique, chimie, tout ça. Et cela dit, ils savent que si je veux quelque chose, je me donne les moyens d'y parvenir. Et du coup, ça les a rassurés. Et ils m'ont toujours soutenue. Ils sont venus voir toutes les pièces. Ils les ont vues 10, 20 fois. Bon, donc ça va. Je pense qu'ils sont assez. Ils sont un soutien qui m'est important d'ailleurs, parce que j'ai besoin de savoir qu'ils sont là et qu'ils pensent pas que je sois un peu folle, un peu excentrique.
Et la timidité, par exemple?
Ouais.
La timidité, est-ce que, au bout de ton expérience, a été guérie déjà? Comment tu la vis maintenant?
Je pense qu'on n'en guérit pas. Malheureusement. J'étais pire avant, hein, mais j'ai progressé. Non, en fait, je pense que quand on est très timide, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas exprimer. Et du coup, par le théâtre, j'ai exprimé des choses assez extrêmes. Et ça m'a apaisée, en fait, par rapport aux choses que je ne peux pas apaiser. Du coup, dans la vie, je me suis sentie plus sereine. Peut-être que ça aide, c'est une sorte de thérapie. Mais il n'y a pas que ça.
Je t'avoue, Hélène, que je ne croyais pas que tu puisses venir à Montauban pour une raison très simple. Et on s'est rencontrés à Toulouse grâce ou à cause de la réalisation du film « Les oiseaux du passage » d'Alain Minier qui est ici présent. Et quand je t'ai proposé de venir à mon émission, tu as dit non, je suis trop timide, je n'ai rien à dire. Mais il y avait une certaine conviction dans tes mots que vraiment ça m'a désarmé, je n'avais plus envie d'insister. Mais avec la complicité d'Alain, et peut-être que c'est grâce à Alain que tu es venu, hein, mais Alain m'a dit, je pense qu'elle peut accepter, donc je poussais un petit peu plus.
Ah, il a dit
mais
ça.
Alors, quelle est ta version, Alain?
Hein? Non, mais c'est toi qui as insisté, donc tu m'as dit, ah, tu peux lui demander et tout, machin. On a fait un stratagème très élaboré pour t'amener à accepter.
Oui. Oui, mais est-ce que c'était sincère ta première réponse? Non, je suis tout humide, j'ai rien à dire. Ou c'était partie de la comédie que tu jouais?
Oh, on est tous comédiens tout le temps. Hein.
Ouais.
On passe son temps à jouer, selon moi. Mais oui, je pensais que j'en étais pas capable, en tout cas. Déjà, dans la vie, lorsqu'il s'agit de m'exprimer, j'ai l'impression que je vais mourir, alors à la radio. Je vais mourir, mais je vais un peu plus tard. Je vais attendre un petit peu quand même.
Nino.
Oui, moi j'avais une question à te poser en t'écoutant. Moi je te découvre, hein, je ne te connais pas. Et pas encore, quoi. Et quand tu disais, enfant, je trouvais une forme d'apaisement dans la présentation d'exposés, etc. Et tu viens de nous rappeler que du coup, dans les mots de la vie, mais de la vie qui se déroule, tu te sens prête à mourir, pourquoi pas, tellement c'est difficile. Du coup, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que parce que dans un exposé, on connaît le déroulé à l'avance, on gère, on sait où on va, et dans une pièce de théâtre, hormis peut-être le théâtre d'improvisation, on sait effectivement où est-ce qu'on va, et est-ce que c'est ça qui est plus facile pour toi, plutôt que la vie qui se déroule, comme ça on ne sait jamais où nous mène le pas suivant?
Oui, en fait, il y a une sécurité. Il y a le théâtre ou la caméra. Du coup, on sait que les choses vont bien se dérouler. A priori, on ne va pas mourir en cours de route. Et du coup, ces contraintes, ça permet une grande liberté au sein de tout ça. Parce qu'il y a des contraintes. Tandis que parfois, quand il y a trop de liberté, on n'ose plus prendre la liberté parce que je pense qu'on a besoin de contraintes pour pouvoir s'exprimer le plus librement possible.
Bien, je profite pour inviter Hélène Massip. Peut-être qu'il y a une réaction, non?
Non, je suis assez rassurée aussi par les propos. C'est sûr que voilà, quand on a des limites qui nous sont fixées, on a peut-être plus de liberté effectivement à évoluer dans ces limites-là. Du coup, voilà, la timidité pour toi, la thérapie continue en fait, et tu arrives à force d'avoir ces contraintes dans le milieu du théâtre, de pouvoir après soigner le problème de la timidité de la vie de tous les jours, quoi.
Oui, parce que ça me permet, voilà, d'exprimer des choses que peut-être j'aurais enfouies inconsciemment et je les mets au grand jour, mais sous un alibi d'un personnage. Et du coup, ça me permet de ne pas avoir à l'exprimer parce que c'est sorti de toute façon. Et c'est amusant parce qu'on m'a souvent donné des personnages, mais de ignobles. Mais alors qu'a priori, je suis quelqu'un de plutôt discret et réservé, mais il y a les metteurs en scène qui ont imaginé des choses incroyables. Ils me mettent des personnages extrêmement hautains, extrêmement. Finalement, ils détectent des choses qui sont peut-être que je ne montre peut-être pas forcément, quoi. On a imaginé aussi le personnage d'Erzsébet de Báthory qui assassine des femmes. Donc, juste d'après ce que je peux dégager. Donc, c'est assez surprenant. Mais voilà. Donc, avec le théâtre, ça permet de faire sortir tout ça comme un effet cathartique. Et de se sentir apaisé. De toute façon, c'est le but du théâtre, même pour le spectateur. Oui. Quand il voit des tragédies grecques, etc., il voit ces sentiments-là et ça lui permet de ne pas commettre de crimes, de ne pas faire ressortir ces choses inconscientes qu'il garde en lui et qu'il préfère ne pas voir sortir.
Et alors là, je demanderai au réalisateur, à Alain, comment lui il voit tout ça.
Oui.
Moi, ce qui me, c'est marrant, ce qui me frappe dans ce qu'Hélène dit, c'est le cadre rassurant de la pièce de théâtre où on connaît le script à l'avance. Il me semble que c'est pas si vrai que ça. Enfin, je sais pas. Il y a pas d'imprévu dans les pièces que tu joues.
Il y a de l'imprévu.
C'est jamais la même chose finalement.
On est d'accord.
Il y a toujours quelque chose d'un peu fragile qui.
Oui. Mais parce que le texte est déterminé et qu'il y a plus ou moins une ligne directrice dans la pièce de théâtre ou la scène, que du coup, on peut se permettre d'insérer de la vie là-dedans, mais parce qu'on sait que précisément telle chose aura sa place, etc. Et du coup, on insuffle de la spontanéité ou de la vie, quoi. Mais à la base, il y a quand même les murs de la maison.
Oui. Non, je comprends. Oui. C'est un peu comme l'expérience qu'on a fait là sur le tournage. Quoi. Il y avait un script.
On parle des tournages et les autres des passages.
Oui, c'est ça. Donc Hélène était la comédienne principale. Et c'est vrai qu'on avait un script très écrit, mais en même temps, des moments où on partait un peu sur de l'improvisation ou des choses qu'on n'avait pas forcément beaucoup répétées. Moi, j'aimais bien ça. Enfin, je trouve que cette espèce de dialectique entre quelque chose d'assez sécurisant et en même temps d'essayer toujours de garder une ouverture à quelque chose d'un peu fou ou d'un peu fragile, d'un peu déstabilisant ou un peu inquiétant, c'est vachement enrichissant.
Oui, j'ai remarqué, Alain, qu'il y avait une remise en cause aussi de toi-même parce que tu disais cette scène, peut-être il faudrait la revoir. Bon, je crois que c'est un peu de loin, hein. Je dessinais pendant le plateau. Et je voyais que vous vous réunissez et les textes que tu avais écrits ou les scénarios, parfois tu le remaniais en cours de route.
Oui. Oui. Tout le temps,
oui. Oui, oui. Donc je pense que c'est une preuve de cette improvisation, cette capacité à se remettre en question. Non?
Même à la limite, ce que j'aimerais faire un jour, c'est d'écrire le scénario. Mais très rigoureusement tout ça, et puis le premier jour du tournage, on brûle le scénario, et puis d'être complètement libre, sachant qu'on a tout intégré, qu'on c'est peut-être ce qu'il y a dans les répétitions de théâtre aussi, on assimile, on incorpore, et puis après, hop, on peut lâcher.
Et on va faire une petite pause, Abdul me fait déjà signe que la pause musicale choisie par Hélène arrive.
Voilà, c'était le premier nocturne de Chopin. En fait, j'ai choisi cette musique parce que c'est une musique qui est venue quand j'ai commencé à travailler les Balzac. À un moment, voilà, j'ai travaillé à deux pièces, Mémoire de deux jeunes mariés et Le Lys dans la vallée de Balzac avec une compagnie parisienne. Et je cherchais une musique pour me laisser aller à l'inspiration, essayer de rêver sur mon personnage. Et Chopin s'est très vite imposé. Et du coup, à chaque fois que j'entends cette musique-là, ça m'évoque voilà, ces grands costumes, ces grands sentiments, ces grands textes, etc. Et puis bon, parce que j'aime Chopin aussi. Il suffit d'avoir Chopin quand il pleut et la pluie devient poétique. Ouais. Voilà.
On revient donc avec Elena Ikini, qui est l'invitée de notre émission, notre dernière émission. Et tu es accompagnée, Elena, par Alain Munier. On a amorcé un petit peu la discussion sur les derniers films que tu as faits. Mais avant de parler un petit peu sur les oiseaux de passage, et je vais rappeler que tu as fait quand même dans ton CV figure. Une vingtaine de pièces de théâtre que tu as commencé depuis 1997. Mmh. Et l'audiovisuel, c'est-à-dire des films, depuis 2006. Donc, je ne peux pas parler de tous parce que l'émission ne pourrait pas. Et donc, je reviens sur l'oiseau des passages, au moins pour que Alain puisse nous dire où on va les montages. Non, avant ça, et je voulais te parler sur la timidité et la catharsis, non, parce que. Pendant les tournages auxquels j'ai assisté, avait quand même des scènes intimes, des scènes de nu. Et alors, comment tu as pu gérer ta timidité dans des moments aussi difficiles, Elena Ikili?
Merci pour cette question. a priori, de façon générale, je me cache derrière le personnage. Je dis, c'est pas moi. C'est le personnage. Voilà. Après, pour un tournage, je trouve ça un peu plus difficile parce qu'il y a quelque chose de... C'est comme si la caméra, elle voyait à l'intérieur et qu'on n'avait pas droit de cacher quoi que ce soit. Et du coup, j'ai trouvé l'expérience du tournage plus difficile dans ce genre, en ce qui concerne l'intimité. Justement, après, de façon générale, c'est pas moi, c'est le personnage, c'est à lui que vous devez reprocher quoi que ce soit, c'est même pas mon corps, c'est le sien, hein. Donc je peux le montrer.
Et sur le plateau, en fait, vous étiez dans un comité restreint où il y avait qu'Alain avec sa caméra et... Comment vous avez en fait
parce que c'est pas moi qui tenais la caméra. non en fait bon on était quand même une équipe assez nombreuse et je pense que même que ce soit des scènes intimes ou pas c'est peut-être un peu déstabilisant au début pour un comédien d'avoir tous ces gens qui soit tiennent une perche soit règlent l'objectif ou il y a beaucoup de monde sur le plateau. Après, sur les scènes un peu plus intimes, c'est vrai qu'on faisait ça plus en comité réduit, en équipe réduite, et puis c'est aussi intimidant pour les techniciens et le réalisateur que pour le comédien, je pense. Enfin, j'ai l'impression que c'est délicat. Du coup, on essaie de trouver ensemble le chemin qui va vers la vérité de la séquence, enfin, ou de la scène, quoi. Voilà, je sais pas trop quoi ajouter de plus.
Non, et puis toute l'équipe était vraiment, vraiment adorable. Alors du coup, ça facilitait la chose. Très vite, le son m'a dit, de toute façon, nous, on regarde pas, on s'intéresse qu'au son, alors on va pas regarder, on s'en fout d'ailleurs.
Oui, c'est vrai qu'après, tout devient paramètre technique. Après, donc, pour le caméraman, c'est juste avoir le point, que le cadre, donc, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est pas du... Il n'y a pas de voyeurisme, mais il suffit de le... Voilà, il suffit de le... De l'établir, de le faire comprendre, et je pense que ça se passe mieux, quoi.
Dis donc.
Ce sont d'ailleurs des scènes qu'on se permet au cinéma, dans un film, parce qu'ensuite le spectateur, il a l'écran entre l'émotion des corps nus et puis lui-même, alors qu'au théâtre, par exemple, c'est quelque chose de rarissime. Oui, la présence des corps nus, c'est quelque chose, ou une scène très intime, c'est quelque chose qui est bien, bien plus rare, parce que là, pour le coup, il n'y aurait pas d'écran et de filtre, même pour le spectateur. Mmh. Donc c'est vrai que l'équipe qui est technicienne, fort heureusement, peut avoir le filtre de la technique, de sa technicité, de son professionnalisme. Mais c'est vrai que c'est des scènes probablement qui sont plus... Enfin, j'entends ce que tu dis, le fait d'être dans un rapport d'intimité avec la possibilité de regard, même s'ils ne sont pas. Alors qu'au théâtre, on est quand même protégé de ça, c'est que...
Oui.
On va passer sous silence peut-être certaines scènes, ou pas les montrer comme ça au public, et puis ils pourront imaginer. Il y a aussi toute l'œuvre de l'imagination.
On est d'accord. Et puis, je savais qu'Alain allait filmer ça de façon esthétique, pudique, etc. Donc, a priori, je savais ce qu'on allait faire des images, je savais ce qu'on allait montrer. Alors, du coup, il y a quelque chose de très rassurant. Alors qu'au théâtre, il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de solutions pour se cacher, quoi. Donc, du coup, dans cette sécurité-là, et puis Alain a toujours été très rassurant, etc. Donc, ça s'est passé sans trop de problèmes.
Oui, et puis il y a le hors-champ, le travail sur le cadre qui fait qu'on... Enfin, on ne montre jamais tout. Au contraire, les sentiments, les sentiments d'amour ou de désir, je trouve qu'on les perçoit mieux si tout n'est pas montré, justement. Donc... On travaille surtout avec ça aussi. En tout cas, sur ce film, on travaillait là-dessus, quoi.
Bien, je vais me porter un petit peu un porte-à-faux des propos qui viennent d'être dits, pas seulement pour l'esprit de provocation, mais aussi par une expérience personnelle, non? En tant que professeur et aussi en tant qu'ex-étudiant de Beaux-Arts, on est confronté à la nudité. Mais loin de refuser l'adjectif de voyeurisme, je l'assume complètement, c'est-à-dire que le voyeurisme, notre attitude de peintre ou de réalisateur ou de photographe, pour moi c'est un voyeurisme, mais je pense que c'est suffisamment bien accepté, bien assumé pour justement sortir les côtés esthétiques et ne pas focaliser simplement sur un aspect du corps. Du moment que le corps est vu avec un recul de ses émotions ou avec un contexte, du coup, tout rentre, disons, dans un esprit plus large. Non? C'est ça qui différencie, à mon avis, la pornographie de l'érotisme. Non? La pornographie va se centraliser sur un morceau de viande et l'érotisme va être beaucoup plus...
Oui, qu'est-ce qu'on cherche à travers la représentation d'un corps ou,
Oui, justement.
C'est ça, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est de l'émotion? Est-ce que c'est du spectaculaire?
On pourrait dire aussi que c'est un voyeurisme des émotions aussi. C'est pour cela que le voyeurisme que j'essaye de provoquer.
Mais je trouve que, dans tous les arts, de mon point de vue, c'est la frustration de ce voyeurisme qui est producteur de sens ou d'émotions, de sentiments, quoi. Que ce soit à travers l'ellipse pour le cinéma ou les métaphores pour la littérature ou la peinture, ça sera peut-être autre chose. Donc il y a cette espèce de conflit entre le désir de voir et d'accéder à une espèce de totalité, et puis cette frustration qui est permanente et qui est, à mon avis, productrice de sens, quoi.
Oui, c'est cet équilibre, cette bancalité, si on pourrait dire, cette espèce de boîte de quelque chose qui nous oblige à créer. Et pour revenir à ces séances de nu que moi, en étant élève, j'ai participé, et aussi après en étant professeur. Et effectivement, je retrouve dans les expressions des prises de son ou de ceux qui vont faire la mise au point que dès le moment qu'on se concentre sur son activité professionnelle, on désamorce ce côté excitant que peut avoir le corps d'Hélène Kelly, par exemple. Non? Et la situation inverse s'est produite aussi. C'est-à-dire que quand les élèves étaient autour de le modèle ou la modèle, il y avait d'abord une espèce d'appréhension réciproque. Mais tout de suite, quand je disais les délais d'exécution, tout le monde se mettait à travailler. Mais, en revanche, ceux qui ne travaillaient pas et qui étaient plutôt nonchalants, ceux qui trouvaient son plaisir autrement, d'accord, c'est-à-dire par les regards purs. Et que pour moi, ce n'était pas péjoratif, c'était les regards. Je trouve que quand on est assumé, il n'y a pas de honte à dire qu'on est des voyeurs professionnels dans ces cas-là. Non? Mais l'inverse réciproque, c'était aussi, parce qu'il est arrivé une histoire, c'est qu'il y avait un modèle qui que c'était, vous savez qu'il y a des pauses courtes, des pauses longues, des 30 secondes, des pauses de 20 minutes. Donc, le modèle, à ce moment-là, il a commencé à bander. Oui, et c'est lui qui il a mis mal à l'aise à tous les restes. Et alors, et, bon, je laissais, je n'ai pas interrompu la séance, je dis, bon, ça, c'est une réaction complètement humaine. Vous décidez que le modèle est bandé ou pas, c'est à vous de voir. Mais certaines filles ont sorti parce qu'elles se sentaient mal à l'aise.
Ah oui.
Mais après que la séance est finie, je lui ai dit, bon, ça arrive. Okay. Et, bon, alors il était un peu honteux, il me disait, mais c'est moi qui ai fauté. Mais non, 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 tu ne dois pas être fautif, te sentir fautif parce que ça arrive. Et alors il essayait de se justifier, non, est-ce que je flashais sur une fille qui était là Voilà. Donc ça passe aussi dans les deux sens. Pardon. Et je ne voulais pas monopoliser, quelqu'un veut intervenir ou réagir.
Non, tu l'as tout dit.
Oui.
C'est bon, c'était très clair.
Et là, il n'y a pas oui. Une pause musique pour vous.
Non, c'est pas encore le moment, hein, Abdoul.
Non, non.
On a encore. Ok, merci Abdoul. Parce que je n'ai pas fait le choix des œuvres à commenter, mais ça tombe comme ça. On va continuer à parler de la nudité parce que Elena Ikiri a choisi de parler sur un film qui l'a marqué beaucoup. Il s'agit de La vie d'Adèle. Donc j'ai une réaction un peu tamisée, mais je le dirai après. En plus, je serai court. Je vais pas. Et c'est à toi de nous commenter ce film, Adèle. Pourquoi tu l'as aimé?
En fait, je ne l'ai pas choisi pour la nudité, forcément. J'ai une sorte de déformation professionnelle qui fait que quand je vois un film, souvent, je m'intéresse aux acteurs. Et pour moi, le travail était remarquable. Le travail d'Adèle Exarchopoulos, je prononce peut-être pas très, très bien.
Léa Seydoux aussi.
Oui, sûr. Oui.
Mais tu préfères Adèle Exarchopoulos.
Les deux étaient assez impressionnantes. Oui. J'ai été assez marquée par Adèle, en fait, parce que je suis en constante recherche, en constant besoin de progresser. Et du coup, je suis vraiment avide de belles représentations, de belles interprétations. Et quand j'ai vu cette jeune actrice, pour moi, c'était exactement ce qu'il faut réaliser, ce qui fonctionne, ce qui fait que l'empathie avec le personnage fonctionne totalement. Et du coup, il m'a complètement bouleversée. Pour moi, ce film a fait son chemin, a fait sa fonction, et c'est en ça que c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce qu'il m'a juste il a marqué un tournant dans ma vie, il m'a fait prendre des décisions.
Oui, c'est raison. 2013. Hein.
Oui, oui, oui. Non, mais il m'a fait prendre des décisions parce qu'il a remué des choses intérieures qui ont fait que j'ai considéré la vie autrement, etc. Mais c'est juste parce qu'on rentre dans ce personnage, que ce personnage se livre tellement que quand on s'identifie au personnage, ça fonctionne et ça nous fait voyager comme lui, et ça nous fait voyager également dans nos vies, nous poser des questions sur nos vies. Pour moi, ça fonctionne. Voilà. Et je vois beaucoup de films, et quand ça fonctionne, que je perds ce regard de comédienne, eh ben, c'est un énorme soulagement. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Il fallait à tout prix que j'en parle.
Merci, merci. Je vais en parler aussi, mais on va le faire après la pause musicale. Je rappelle à nos auditeurs que ce film est sorti en 2013 et que c'est Abdelatif Kechiche.
Exactement.
Tunisien d'origine et qui a réalisé ce film.
Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp,
when my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and catch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might lead you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wind of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence.
Donc il s'agit de la musique du lauréat, Simon & Garfunkel. En fait, je ne connaissais pas encore le film quand j'ai vu Dustin Hoffman sur un escalator. Enfin, c'est pas escalator, c'est un tapis roulant qui, voilà, c'est la musique qu'on entend en fond et lui qui est juste sur ce tapis roulant. Je trouve ça absolument incroyable comme introduction de film, et d'où l'importance de la musique, etc. Donc, quand on a dit qu'on allait parler de mon métier, je sais pas, pour moi, musique liée au cinéma, ça m'a forcément fait penser à cette musique, cette chanson-là qui a un rôle incroyable sur le film.
Oui, on continue à parler des films avec Elena Ikili, comédienne toulousaine. Et je me devais de te dire ma réaction par rapport au film d'Adèle. Mmh. Donc, je vais essayer d'être court parce que j'ai découvert avec ce film des magnifiques scènes de silence, de sexe, de trouvailles et disputes. J'ai beaucoup apprécié les scènes où ils se chamaillent toutes les deux. Mmh. Et en revanche, ce qui m'a déplu, c'est la longueur du film, parce que je peux rester avec un film de Bergman ou un autre réalisateur, Trazor, sans problème, mais là, je pense qu'il y a eu, pour les cas de la vie d'Adèle et d'Abdelatif Kechiche, il y a eu un abus des scènes longues ordinaires. Je crois que dans son intention, je m'abuse peut-être, il y a eu cette intention de transcrire ou de transposer dans la vie filmique la vie ordinaire, parce que c'est la vie d'Adèle, non? Mais la scène de l'institutrice, la manière comment elle a rallongé la préparation pour la fête de fin d'année de l'école, donc ça me semblait complètement lourd et qui a rallongé le film excessivement à 3 heures. Après, et sinon, le sujet lui-même, c'est un bon sujet, mais je continue à dire qu'il aurait pu se faire, et 1h30 suffit. Et pas 3 heures, parce que ça dure 3 heures. Alors, voilà, j'arrête. Vanessa, Elena, Massip et Ninon, ou Alain?
Bon, moi, j'ai vu le film, je suis un peu mitigé, mais je suis d'accord quand même avec Hélène par rapport à la présence de l'actrice. Après, bon, il y a des moments où...
Adèle Exarchopoulos.
Voilà, je voulais pas prononcer le nom parce que c'est très compliqué. Après, parfois, je trouve que bon, la façon de la mettre en scène n'est pas forcément toujours très juste, qu'il en fait un peu beaucoup, quoi. Je pense qu'il a dû saisir des choses très belles chez elle et très spontanées, comme un nez qui coule quand elle est triste, qui est très beau une fois, deux fois. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du montage, il voulait absolument toujours remettre ça, faire d'un excès de naturalisme. Et parfois, je trouve ça penche un peu vers la vulgarité, quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Après, la durée peut être un peu longue, mais les scènes que tu trouvais longues, c'est celles dans l'école, c'est ça, quand elle reprend sa vie après la rupture. Et je trouvais que c'était les scènes les plus belles, je sais pas. Oui. Je trouve que cet effort, enfin cette lutte pour retrouver quelque chose de... retrouver le goût à la vie après une histoire aussi forte, il y avait vraiment de la beauté. Mais bon, après, c'est un peu tout le discours autour de l'histoire. Le discours sur l'art qui est parfois un peu développé, que je trouvais un peu superficiel. Enfin, ça m'a pas forcément...
Le discours de l'art à l'intérieur de l'un du film ou
à l'intérieur du film, oui, quand les personnages parlent d'art, etc. Enfin, c'était un peu... j'ai trouvé ça un peu superficiel, un peu lourd. Enfin, voilà. Ouais.
On revient vers Hélène Aikili, alors, parce que c'est toi qui as choisi le film. Tu dois rajouter autre chose.
Sur le film, non, ça va.
Alors, on va passer à ton autre choix d'une œuvre que j'adore, celle-ci là, bien conditionnelle. C'est Jean Cocteau. Donc, La voix humaine.
Ouais.
Est-ce que pour nos auditeurs, tu voudrais faire une petite improvisation? Comme tu veux, hein. Sinon, tu présentes l'œuvre. C'est un monologue, mais je ne vais pas dévoiler la vedette quand même. Tu peux présenter l'œuvre.
Moi, je vais du coup, pour me mettre à l'intérieur, je vais présenter l'œuvre et après, peut-être que ça va découler sur le texte, si je le retrouve, parce que sorti du contexte, en fait... on parlait de musique justement Chopin par exemple me permet de me rentrer dans le rôle, etc. Donc se retrouver dans un studio et dire un texte hors de tout contexte, c'est très très étrange pour moi. Mais après,
exactement.
Là, je suis dans le lauréat, vous comprenez. Non, en fait. La voix humaine, c'est un peu mon bébé, parce que quand on est comédienne, on dépend beaucoup du désir des autres, en fait, dans quoi on vous met, etc. Et j'ai voulu prendre ma vie en main et donc choisir un texte et voyager avec ce texte. C'était mes contraintes. Et quand j'ai lu La voix humaine de Cocteau, pour moi, c'était une évidence. C'était le texte qu'il fallait faire à l'étranger. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il se trouve que c'était le cinquantenaire de Cocteau quand je l'ai monté, c'est-à-dire 2013. Mais on m'a dit justement, c'est pas un rôle qui te correspond, ce n'est pas pour toi.
Ah oui.
Du coup là, c'était inversé. Là, du coup, on m'a dit mais non, ne le fais pas, c'est pas pour toi, c'est pas envisageable. Après, on a passé cette barrière-là. Je dis « on », c'est le metteur en scène et moi, un metteur en scène avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans. Finalement, on s'y est vraiment attelé et on a vu que dans cette pièce de Cocteau, il n'y a pas de nom de personnage, il n'y a pas d'âge, c'est très très vague. Du coup, ça peut être joué par tout le monde, en fait. Et ça peut être joué par deux hommes. C'est ce qu'on croyait d'ailleurs au départ, que le Cocteau a voulu parler d'homosexualité à travers ce texte. Exactement, parce qu'on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme qui s'exprime et à qui il s'exprime. Donc, parce qu'il faut savoir que c'est une scène au téléphone. Il y a eu une rupture amoureuse entre, bon, dans mon cas, un homme et une femme. Et ils ont quand même convenu de se parler une dernière fois au téléphone avant de couper les liens jusqu'à la fin de la vie. Et du coup, c'est une scène de tension parce que peut-être qu'elle veut essayer de le récupérer ou juste dire au revoir. Donc, mais il y a... j'ai perdu mon fil. Le fil de la voix humaine, d'ailleurs.
Oui, mais je vais te le répondre parce que je voulais t'interrompre justement.
Pour faire le texte, on va le faire.
Oui, on peut pour te mettre dans l'ambiance, peut-être que je vais oser lire un extrait, comme ça, tu vas te développer la rage pour dire non, ça ne se lit pas comme ça, il faut le dire comme ceci. Voilà. Donc je vais jouer la provocation pour déclencher ce désir d'intervenir. Donc avant de faire ces piètres essais, je l'annonce déjà. J'ai découvert cette voix humaine à travers la voix de Simone
Signoret.
Signoret, oui. Alors, elle avait l'âge. Peut-être que la raison pour laquelle le réalisateur t'interdisait ou t'a réfuté de que tu fasses le rôle, c'est ton âge. En plus, tu es très belle. Alors, tandis que quand Simone Signoret a fait ce texte, il était déjà un peu bouffi, il était déjà un peu plus âgé. Donc, ça correspondait à ce personnage qui a fini une relation et commence à dire « Allô ? Allô ? Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochés. Allô ? Vous êtes avec une abonnée. Oh, mais madame, raccrochez. Non, ici, c'est pas le docteur Schmidt. » Non, ici, c'est le 08, pas 07. Alors, mais c'est ridicule, etc. Donc, commence, Simone Signoret, on la voit se battre avec une... Parce qu'on est dans les années 30, hein, et donc il y avait un téléphone, donc il doit passer par quelqu'un d'autre, il faut le bien situer dans le contexte. Et après, elle va enfin retrouver cet être qui essaye de récupérer. Il commence à parler qu'il y avait eu une connaissance commune, et il a appris qu'il est allé faire les courses, etc. Mais essayez par n'importe quel moment de le récupérer. Ça y est, Hélène et Kili.
Oui. Voilà, j'ai bien aimé ton interprétation.
Mais alors j'ai échoué parce que mon but c'était de te faire intervenir.
Merci. Tu veux que je fasse un extrait, c'est
oui,
ça?
Oui, mais...
D'accord, d'accord, je vais essayer. Voilà, c'est parti. Et en admettant que je dors, après le sommeil, il y a le rêve, et le réveil, et manger, et se lever, se laver, et sortir, et aller où? Non, mon pauvre chéri, je n'ai jamais eu rien d'autre à faire que toi. Mais, pardon, j'étais toujours prise. C'est entendu, prise par toi. Pour toi. Marthe a sa vie organisée. C'est comme si tu demandais à un poisson comment il compte arranger sa vie sans eau. Des distractions? Je vais t'avouer une chose qui n'est pas très poétique, mais qui est vraie. Depuis ce fameux dimanche soir, je n'ai été distraite qu'une seule fois. Chez le dentiste, quand il m'a touché un nerf. Seul. Seul.
Merci, merci. Tu sais, Hélène, tu m'as touché un nerf aussi, mais c'est pas celui du dentiste. Vraiment, là, j'ai commencé à avoir la chair de poule, là, parce que c'est pas parce que tu es présent que je te fais des louanges, je te fais des fleurs, ni pour te séduire, ni rien du tout, mais parce que vraiment, tu m'as fait oublier que j'étais dans une émission de radio et que j'étais vraiment dans ta voix, dans ton texte. Je dirais pas la voix humaine, je dirais la voix d'Hélène Aïkili.
Moi, j'ai une question technique.
Vanessa.
Est-ce que tu as en fait un monologue intérieur, vu que c'est au téléphone? Est-ce que tu as une réponse?
Oui, voilà. C'est un monologue que j'ai extrêmement travaillé, en fait, dans le sens où le texte, je le sais, je peux faire n'importe quoi en le disant, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est je fais apparaître une sorte de voix dans ma tête, quelqu'un que je connais, et qui me parle. Et je l'ai tellement travaillé qu'il peut me dire des choses complètement différentes, en fait. Et la seule chose à laquelle je dois normalement prêter attention, c'est à sa voix. Et sa voix que j'essaie de créer indépendamment de moi et de réagir à tout ce qu'il pourra me dire, en fait. Et parfois, quand je suis un peu distraite ou quoi que ce soit, il va improviser, il va me remettre dans le chemin. Mais je ne suis pas folle.
Non, tu n'es qu'une comédienne.
C'est ça.
C'est normal.
Rodrigo y Gabriella, une chanson qui s'appelle Captain Casanova. C'est juste parce que cette musique me rend heureuse. Mais en fait, le rythme comme ça qui s'accélère, ça me met en transe. Et je trouve, du coup, ça met dans une sorte de pas d'excitation.
Mais cette transe-là, tu nous as plongé aussi, parce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, avant juste la pause musicale, un extrait de La voix humaine de Jean Cocteau. Et j'avais quelques mots à dire, mais d'abord, Elena Masip.
Voilà, moi je trouvais extraordinaire la rapidité avec laquelle tu nous as plongé dans cet univers-là, où on est sorti du studio, on avait les poils qui se dressent, enfin la décharge d'émotions que tu as pu nous transmettre en vraiment un laps de temps très très court, quoi. Et voilà, ça c'est la puissance du jeu d'acteur aussi, la qualité du jeu d'acteur qui fait ça, mais c'est vrai que c'est humainement impressionnant.
Merci.
Ninon.
Comme nous on est dans le studio, on avait le privilège aussi de te voir pénétrer directement le sujet, te transformer quelque part, parce que tu as fermé les yeux, ton corps était modifié, ta voix aussi. Et moi, je me dis, je ne sais pas si ça a pu... Enfin, comment est-ce qu'on peut ressentir la même émotion en écoutant à la radio? En tout cas, pour nous, c'était vraiment quelque chose de très fort. Donc, on écoutera l'émission pour voir si ça fait la même chose derrière le poste de radio. Oui. Mais c'était vraiment extraordinaire. Un beau voyage. Très court.
C'est gentil.
Et quel voyage.
Une petite précision historique, non? Je ne sais pas si elle est vraie, mais je crois qu'il y a une certaine probabilité. En réalité... Jean Cocteau s'est inspiré en 1930 d'un personnage réel, c'est-à-dire Berthe Bovy, qui était une compagne de Sacha Guitry. Donc Sacha Guitry l'avait abandonné et Berthe Bovy s'est confiée à Cocteau. Et c'est pour cela que Cocteau a fait cette pièce. Mais je mets toujours une précaution parce que je me méfie beaucoup de Wikipédia. Que c'est une encyclopédie libre, entre guillemets, où tout le monde met sa patte. Et je préfère prendre Wikipédia comme une espèce de départ, mais jamais comme une arrivée, parce que c'est souvent mal fait, faux. Et je préfère prendre plutôt les auteurs qui sont datés avec des publications sérieuses. Et c'est pour cela que je avance dans cette référence.
Moi, j'avais lu que c'était suite à sa rupture avec Jean Desbordes, en fait, avec qui il était à l'époque, et ça lui a inspiré cette pièce-là. Et puis, on a dit aussi que c'était sa façon de parler d'homosexualité de façon un peu déguisée. C'est l'époque à laquelle il a écrit le livre blanc, je crois, et dans laquelle il parlait ouvertement d'homosexualité, mais c'était soi-disant un livre anonyme. Donc, c'est ce que j'ai lu, donc comme quoi il doit y avoir pas mal de versions.
Autre réaction? Non. Allez, on revient encore à toi, Hélène. Et comment tu réagis face à ce que vient de dire Hélène Massip? Et là, je reçois le signal d'Audul qui me dit qu'il nous reste à peine 2 minutes. Alors, si tu peux réagir rapidement, et ensuite, tu nous pourras dire tes coordonnées et tes projets actuels.
Oui, non, moi, ça me touche beaucoup parce que c'est un travail qui me tient à cœur. Alors du coup, quand le travail peut se voir, ça me comble de joie. Après, je suis très timide, donc des compliments, j'ai du mal. Mais merci beaucoup. Et sinon, voilà, cette voix humaine, je vais la jouer dans le festival Bruissement d'ailes à Mons, dans la région centre, le 28 mars. Et avant cela, je jouerai dans Mademoiselle Julie de Strindberg, traduction de Boris Vian, sur Paris, à la Cité universitaire.
Merci beaucoup et merci aussi à la présence d'Alain Munier qui, merci. En 2015, sort Les Oiseaux du Passage, son film avec Hélène Kili. Je vous dis à bientôt, à une prochaine, parce que c'est mon dernière émission. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je remercie la présence aussi d'Hélène Massip, Ninon Legou et Vanessa Benzer. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Merci. Au revoir.